faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la conservation, ou plus exactement de la conservation de nos aliments. Qu'est-ce qu'il y a à manger ? Regarde dans le frigo, pardon, dans le réfrigérateur. Avez-vous déjà entendu ce genre de phrase ? Le frigidaire, la marque qui s'est imposée dans toutes les cuisines. Et on oublierait qu'avant, on savait aussi conserver nos aliments sur des mois. Conserver ces aliments, c'est pouvoir les consommer un peu plus tard, tout en conservant au maximum leurs propriétés organoleptiques et nutritionnelles. Oups, un gros mot, organoleptique, qui a trait au sens, donc pour simplifier, l'odeur, le goût, la saveur, la texture. Car manger de la pomme, des fraises ou un cassoulet sous forme de purée comme les astronautes, on a fait mieux. Mais pourquoi conserver ? Tout d'abord parce que les aliments arrivent souvent en quantité à un instant donné. Que ce soit les fruits qui arrivent à maturité sur quelques jours puis tombent au pied de l'arbre, que ce soit les 100 kg d'un porc que l'on abat, il est bien possible de lisser certaines productions en lissant les variétés. Par exemple, en ayant une dizaine de pommiers ou de pruniers, on a des chances d'avoir des fruits sur des périodes plus étalées. Quoique, désormais, avec le dérèglement climatique, on a de bonnes chances que des gelées nous privent d'une partie des récoltes assez régulièrement. La multitude des variétés permet alors de s'assurer d'avoir de bonnes chances d'avoir au moins un fruit dans l'année. Mais quand on parle de du blé ou de la plupart des animaux, il y a des saisons. Le blé se récolte en été, les naissances se déroulent en fin d'hiver, début de printemps. Une autre raison de conserver les denrées est de pouvoir être plus robuste aux aléas, aux famines, aux prédateurs. Cela fait des lustres que l'homme a mis en œuvre différentes techniques pour assurer sa subsistance durant les jours, les semaines, les mois, voire les années à venir. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on met quasiment tout au réfrigérateur. Même les œufs, alors que quand on les achète, ils sont à température ambiante et qu'ils peuvent le rester ainsi pendant des jours et des jours. Les fabricants de réfrigérateurs font même des compartiments dédiés aux œufs. Avec un peu de recul, on se demande bien pourquoi. Certains vont même jusqu'à mettre dans le réfrigérateur de la confiture, du miel, etc. Paradoxal, non ? Parce que justement, le miel, c'est capable de se conserver pendant des années à température ambiante, voire des siècles. Paradoxal également parce que la confiture, c'est justement fabriqué pour conserver des fruits. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça se conserve si bien ? Commençons par comprendre pourquoi est-ce qu'un aliment comestible devient non comestible. La plupart du temps, c'est parce que des bactéries, des champignons, des levures ou des virus viennent s'y développer. Et que ces organismes vivants peuvent être pathogènes, nous rendre malades. Bien évidemment, il y a aussi des bactéries, des champignons, des levures qui nous sont plutôt favorables. Les moyens de conservation permettent donc que ces organismes pathogènes ne puissent pas se développer à un niveau létal. On a commencé par parler du réfrigérateur. Depuis la nuit des temps, les hommes ont conservé leurs aliments au frais, dans des grottes, dans des glacières, comme les Grecs et les Romains, et loin des rayons du soleil, ce qui permet de ralentir l'activité cellulaire et donc, entre autres, le développement des bactéries et champignons. C'est ce processus que l'on utilise désormais avec la chaîne du froid, que ce soit le réfrigérateur entre 4 et 8 degrés, la congélation à moins 18 degrés, ou la surgélation qui, en fait, est une congélation mais extrêmement rapide, ce qui évite aux cellules d'éclater sous l'action du gel et permet donc d'avoir des mecs qui gardent mieux leur consistance et leurs arômes. Si la congélation est à la portée de tous, il suffit de mettre au congélateur et d'attendre, la surgélation est réservée aux professionnels ayant des machines extrêmement performantes. Masquer la lumière, maintenir au frais, on peut aussi le faire très simplement avec des moyens rudimentaires. Les anciens utilisaient les caves des maisons, les grottes ou parfois également les cours d'eau. Et on peut aussi mettre les légumes, surtout les racines, dans le sable. Ainsi, ils resteront disponibles pour de bonnes soupes tout au long de l'hiver. Pour certains légumes, comme les topinambours, on peut d'ailleurs aussi envisager de les déterrer au fur et à mesure du besoin. la terre les protégera des gelées de l'hiver. Bon, il y aura peut-être quelques vers qui vont également les grignoter. Alors, pour conserver nos aliments, on peut freiner l'activité cellulaire, mais on peut aussi empêcher les bactéries de proliférer en leur coupant l'herbe sous le pied, en les privant d'un élément essentiel à leur survie. Un premier élément, l'eau, par exemple. C'est ce qui se passe quand on déshydrate, que ce soit en faisant sécher au soleil les raisins, les figues et les autres fruits. C'est également ce qui se passe quand on prépare du saucisson, bon cette fois-ci pas au soleil, ou le jambon cru. Ou c'est également ce qui se passe quand on plonge dans le sel les magrets, les fèves, etc. La chaleur des fumées ou autres va également extraire l'eau. Le sel va aussi absorber beaucoup d'eau, notre aliment va s'assécher. On peut aussi le faire en profitant de la chaleur du poêle ou du four après une cuisson. Et au final, sans eau, pas de vie, pas de bactéries, pas de levure. Néanmoins, la déshydratation peut aussi détruire certaines vitamines. On en a déjà parlé, un autre moyen de tirer l'eau, c'est de la remplacer par le sucre. C'est ce qui se passe quand on prépare de la confiture. Le sucre remplace une bonne partie de l'eau. À l'instar du miel, qui contient quasiment que des sucres, notre confiture va pouvoir se conserver pendant des mois, voire des années. Par contre, moins on met de sucre, moins on la cuit, et donc moins on retire de l'eau, moins elle se conservera longtemps. Mais d'ailleurs, comment faisait-on avant sans sucre ? Eh bien, on pouvait faire de la confiture en faisant revenir pendant très longtemps, en faisant évaporer des jus de pommes, des jus de raisin, et ainsi on obtenait un mélange sucré auquel on rajoutait nos fruits et on les faisait cuire ainsi en confiture. De la même manière, au lieu de priver d'eau le substrat, on peut le priver d'oxygène, un autre élément indispensable à la vie pour bien des cas. C'est ainsi que l'on peut conserver des poivrons ou autres denrées plongées dans de l'huile. L'huile empêche l'oxygène d'atteindre nos victuailles, les bactéries et autres privées d'oxygène ne vont pas se développer. On peut faire de même avec du saindoude, c'est-à-dire de la graisse de porc fondue, pour protéger par exemple les rillettes ou les confits. Ou on peut également ajouter de la paraffine sur de la confiture par exemple. On peut également mettre de la cire sur les fruits pour éviter les échanges gazeux avec l'extérieur. Un peu plus complexe à mettre en œuvre, on peut stocker sous vide d'air. Pour les denrées sèches, c'est souvent stockable tel quel. Pour les denrées humides, c'est souvent combiné avec la mise au froid. Par exemple, de la viande mise sous vide que l'on met au réfrigérateur ou au congélateur. Vous êtes sur CFM et vous écoutez les croissants décroissants. Aujourd'hui, nous parlons de la conservation de nos denrées. Nous avons parlé de différentes techniques qui consistent à limiter la capacité des organismes pathogènes à se développer. L'homme a mis des techniques au point afin de tuer, dès le début, ces bactéries. La première mise en œuvre est la cuisson. Une des dernières mises en œuvre qui ont été inventées, c'est l'irradiation, l'ionisation. On passe au rayon gamma ce que l'on veut conserver. En France, on a le droit de le faire pour un certain nombre de produits comme le blé. Bon, quand on fait ça, on tue un peu tout, même les germes. Il ne sera plus possible de faire pousser des patates ou du blé une fois qu'ils auront été irradiés. On a aussi l'obligation en France d'indiquer que le produit a été irradié. Malheureusement, ce n'est pas très vendeur. Par contre, il suffit d'incorporer notre blé irradié dans un plat préparé pour que l'obligation n'en soit plus une, puisque notre plat préparé lui-même n'a pas été irradié. Bref, comme ça, on est certain que la malbouffe reste de la malbouffe. Entre ces deux méthodes, pour tuer nos pathogènes méchants, on peut aussi le faire sous l'action de la chaleur. Alors, on pense souvent à la pasteurisation. Mais ce n'est qu'une technique parmi d'autres, et on la confond souvent avec d'autres techniques, notamment la stérilisation et l'apertisation. En portant à plus de 100 degrés pendant plus de 20 minutes, eh bien, on peut tuer les bactéries. Lorsque l'on fait cela dans un bocal hermétique, c'est l'apertisation. On peut ainsi avoir une conserve qui sera toujours mangeable pendant des années. La pasteurisation, elle, consiste à chauffer à une température légèrement inférieure à 100 degrés, puis à refroidir brutalement. En fait, c'est un procédé qui est plutôt dédié aux industriels qu'à difficilement mis en œuvre. Et connaissez-vous la pascalisation ? Pascalisation comme Pascal, l'unité de pression. Toujours pour tuer nos organismes pathogènes, il s'agit de leur appliquer brutalement une très forte pression et dépression, afin d'exploser les cellules. Bon, au final, les cellules de notre plat doivent aussi finir quelque peu en purée. Une méthode tout aussi radicale, c'est de plonger les fruits et autres dans de l'alcool. Celui-ci va aseptiser le milieu et le maintenir propre. Bon, par contre, ça altère clairement le goût et les propriétés nutritionnelles. Nous avons donc vu comment empêcher les bactéries de proliférer en leur retirant leurs éléments essentiels ou en les tuant. Voyons maintenant comment être un peu moins cruel et un petit peu plus malin. Nous allons faire en sorte que ce soit de bonnes bactéries qui s'occupent du boulot. En les nourrissant, elles vont prendre le dessus au détriment des méchantes bactéries. Et là encore, nous sommes avec des méthodes ancestrales, des méthodes que nous côtoyons néanmoins tous les jours pour le bonheur de nos papilles. Mais si nous les connaissons pour quelques applications spécifiques comme le fromage, le vin, les cornichons, les olives, voire la choucroute, elles sont en fait utilisables pour bien d'autres mets. Commençons par le fromage. C'est une manière de conserver le lait qui est produit du printemps à l'automne. Et oui, on est habitué au lait frais toute l'année. Mais le lait de chèvre et de brebis étant lié aux naissances, ça n'existe pas en hiver. Sauf à donner des hormones aux chèvres, ce que pratique l'agroalimentaire, sauf à faire de lactation longue ou continue, mais cela ne se pratique pas dans l'industrie. Bon, bref, une fois que l'on a trait la vache, la chèvre et ainsi de suite, on prend le lait et on va le transformer en caillé. Pour cela, plusieurs techniques. Soit on utilise des enzymes, soit on utilise des bactéries lactiques. Les enzymes, on les trouve dans les estomacs des veaux, agneaux, chevreaux, qui, au passage, sont abattus après leur naissance, sans laquelle il n'y aurait pas de lait. Pour éviter cela, on peut trouver des enzymes qui vont cailler le lait dans des végétaux aussi. La sève du figuier, certains chardons. Mais ça, en fait, c'est plutôt une pratique qui se fait à la maison et pas du tout dans l'industrie. De manière industrielle, on peut aussi utiliser des champignons. Aux États-Unis, on utilise d'ailleurs des enzymes issues d'OGM. En ce qui concerne l'ajout des bactéries, qui le plus souvent est lié à la production de yaourt par exemple, on peut trouver de la poudre de yaourt au supermarché, mais on peut aussi réutiliser des yaourts ou attendre un peu plus longtemps. En fait, les bactéries que l'on va mettre dans notre lait, elles sont déjà présentes dans le lait et dans l'air. Elles vont agir toutes seules. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il suffit juste d'attendre un peu plus longtemps. Ces bactéries vont proliférer, prenant le dessus sur toutes les autres qui pourraient être pathogènes. On obtient alors un fromage caillé blanc qui est comestible sans problème. Mais précisons qu'en fait, ce n'est pas vraiment la bactérie qui agit. Elle acidifie le mélange et va alors le faire précipiter pour obtenir le caillé, c'est-à-dire les protéines, et d'autre part, le petit lait qui est constitué surtout de l'eau. Du coup, une autre manière de figer notre lait en retenant les pour en retenir les protéines, c'est d'ajouter du vinaigre ou un autre acide. Une fois notre caillé obtenu, on peut le faire sécher. En général, on ajoute un peu de sel, surtout sur la croûte du fromage, pour accentuer le séchage et fermer à l'air l'intérieur, pour empêcher les bactéries d'y pénétrer. On obtient ainsi un fromage qui se conservera pendant des mois. Cette technique de lactofermentation peut non seulement s'utiliser sur des produits laitiers, mais aussi sur des légumes et également sur l'eau, le kéfir. Un exemple connu est la choucroute, un peu plus exotique, le kimchi coréen ou encore le kéfir. Pour faire de la lactofermentation, on va couper finement notre légume, le mettre dans un grand récipient et le couvrir d'eau, additionné d'un petit peu de sel. Ce sel va aider à tirer l'eau du légume et conserver un peu plus facilement le contenu. On laisse le tout à l'air libre, quelques jours ou semaines en fonction de la météo. Les bactéries présentes sur le légume et dans l'air vont ensuite proliférer, prendre le dessus sur des bactéries pathogènes. On referme alors les bocaux de manière à ce que l'air ne puisse pas rentrer. Par contre, on peut laisser l'air sortir, pas besoin d'un pot strictement hermétique. Par contre, il faut absolument éviter des bocaux ou des couvercles en métal. Les anciens utilisaient des pots en terre avec des bourrelets au niveau du couvercle. On versait de l'eau dans ce bourrelet, ce qui assurait une certaine étanchéité à l'air qui rentre notamment. Durant encore quelques semaines, notre contenu va agir, on va le voir un petit peu mousser, les bactéries vont acidifier le milieu et produire du gaz carbonique. En acidifiant, on s'assure que seules nos bactéries non pathogènes survivent. Avec le gaz carbonique, on vient remplacer l'oxygène de l'air et on protège ainsi le contenu de la pourriture. C'est une sorte de conservation en atmosphère protectrice, bien plus facile que le moyen industriel utilisé aujourd'hui. Et voilà, résultat des courses, on a à disposition de bons légumes pour tout l'hiver. En plus, ils conservent en grande partie leurs propriétés nutritionnelles et même, ils sont souvent plus digestes qu'initialement. La présence des bactéries rend les nutriments encore plus assimilables. Le tout sans aucune cuisson, sans apport d'énergie, avec de simples bocaux en verre ou en terre. Quoi de plus simple ? Alors, on ne va pas s'arrêter à la choucroute, cornichons et aux olives, la lactofermentation des carottes, des radis, des poivrons et tout ce qui passe peut commencer. Au final, on peut se demander pourquoi on a ce sacro-saint réfrigérateur à la maison, non ? Ce truc qui tourne 7 jours sur 7, 365 jours par an, qui produit du froid en permanence dans une pièce que l'on chauffe la moitié de l'année, et un appareil qui chauffe la pièce où il est en été et qu'on aimerait justement qu'il ne fasse pas trop chaud dans la maison. Alors, on le bazarde ? Ah, au fait, on n'en a pas parlé, mais les conservateurs cancérigènes qu'on retrouve dans la nourriture industrielle, on s'en passe volontiers aussi. On préférera le goût du genièvre ou du clou de girofle, du thym, de la menthe ou d'autres épices diverses et variées. On veut du green, rubrique greenwashing. Ces paquets recyclables ou ces dosettes réutilisables de café, ça fait rêver en vert, ou pas. Car l'empreinte environnementale du café, c'est majoritairement le café, non pas son contenant. Alors, beaucoup moins de café dit beaucoup moins de dosettes, et beaucoup moins d'emballage, qui dit mieux ? Le thé a déjà une empreinte moindre, ainsi que la chicorée ou toute autre racine torréfiée. Quant aux tisanes, c'est en plus un plaisir de les récolter le long d'une balade et de les sécher soi-même, à conserver au sec dans une boîte métallique ou un simple torchon.
N'écoutons pas les Khmer verts et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'équipe, salut le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
C'était Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdescroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre, moins deux, pas de déprimant, l'eau, la terre, on a un seul monde pour nos enfants, assurément.